Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Le 3 mai 1897, le bazar de la Charité ouvre ses portes au public. C'est un événement attendu depuis des mois. Le bazar, véritable coopérative d'œuvres de bienfaisance, est devenu en quelques années la seule institution privée capable d'apporter un complément de dons aux aides encore très inégales et insuffisantes apportées par l'État. Et puis, c'est le rendez-vous du tout Paris, de l'aristocratie parisienne qui a hâte de se presser dans ce nouveau lieu pour faire œuvre de charité. Quelques jours auparavant, pourtant, une jeune voyante, Henriette Couédon, a fait une terrible prédiction. Seconde partie de notre épisode consacrée au bazar de la charité. L'incendie était déjà partout. Pour se faire une idée plus précise du bazar de la charité, juste avant son inauguration, essayez d'imaginer une structure en sapin colossale de 80 mètres de long sur 13 mètres de large. Elle est surmontée d'une toiture de verre, masquée pour l'occasion par un grand vélum, une grande tenture, destinée à adoucir la rudesse des structures de métal. Elle a été parée de décors de théâtre rachetés à l'Opéra de Paris. À l'intérieur, de part et d'autre d'une allée centrale, 22 comptoirs ont été aménagés dans des répliques d'échoppes médiévales. On y vendra des bibelots, du mobilier, des bijoux donnés par les dames patronesses. De nombreuses duchesses, comtesses, marquises sont attendues pour représenter les différentes œuvres caritatives qui bénéficieront des revenus de ces ventes. On espère notamment la duchesse d'Alençon, sœur de Sissi, ou la comtesse Gréfulle, cette femme magnifique qui inspira l'immortelle duchesse de Guermantes à Marcel Proust. Au sein du bazar, une annexe a aussi été dédiée au fameux cinématographe. Ce cinématographe excite déjà l'imagination de tous les futurs visiteurs. Parmi les images animées projetées, on attend un film des frères Lumière, L'arroseur arrosé. Mais pour ce premier jour, il a finalement été décidé d'ajourner la projection aux grandes dames des invités. La déception est cependant vite oubliée. On reprend le cours des controverses du moment. L'affaire Dreyfus est notamment au centre des disputes. La comtesse Gréfulle, farouchement dreyfusarde, s'est fait remarquer en s'en prenant à une marquise qui avait fait inscrire « Mort aux Juifs » sur son ombrelle. On parle aussi Beaux-Arts. Si les peintres Meissonnier et Bouguereau sont de véritables institutions dans le Paris artistique d'alors, on s'interroge aussi sur ce Gauguin qui vient de quitter le quartier de Plaisance pour se rendre dans les colonies, et sur ce Cézanne, au parti pris qui offense le regard. Ces nouveaux visages du monde artistique habitent ou ont habité les faubourgs. Ils sont bien trop pauvres pour occuper les quartiers riches. A-t-on seulement tenté un simple déplacement dans ce quartier situé à moins d'une demi-heure de marche de Saint-Germain-des-Prés? Là, les ouvriers s'entassent dans des baraquements insalubres construits dans ce quartier infesté de rats. Au mois de mars précédent, on a retrouvé un ouvrier mort rue de Gergovie, presque entièrement dévoré par les rats. Peu de temps avant, une femme s'est jetée par la fenêtre de désespoir, abandonnant ses trois petits-enfants. L'énumération des horreurs, de la misère qui règne dans ce quartier si proche fait frémir la duchesse d'Alençon, une belle âme qui a fait de l'aide aux plus pauvres son labeur de chaque jour. Elle est habituée à entendre la ritournelle des calamités qui s'abattent inexorablement sur le peuple réprouvé des ouvriers. Les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent. En cette année 1897, presque 10% de la population française reçoit une aide de l'État. Mais pour être aidé, il faut apporter des preuves de son indigence. Et l'heure est encore à cet amalgame très ancien entre pauvreté et ce qu'on appelle malhonnêteté. Si un invalide de guerre est sûr de trouver assistance, un homme qui a simplement perdu son travail est souvent condamné à la rue. Il ne lui reste alors qu'une seule alternative à la charité publique, les dons venus des initiatives privées. Les patronesses du bazar se mobilisent évidemment particulièrement pour les enfants frappés par la misère. Elles ont conscience de se trouver au centre d'un dispositif de salut public. Leur action a du sens. Derrière leur stand, qui porte des noms hauts en couleur comme « Chaboté » ou « Truie qui file », les donatrices ont ajusté leurs atours. Les jupes droites remplacent les épais rembourrages sous les robes. Tiens, j'en profite ici pour vous en dire un peu plus sur la mode de l'époque. Fini les queues d'écrevisses, les tournures faites de rembourrages portés sous la robe. Place aux jupes droites de chez Madame Gradoz, aux manches ballon de chez Mademoiselle Thirion. La baronne de Vatiménil, parente du baron de Mako, porte un costume en voile de toile rose. Sa veste est bordée de liserés en piqué satiné crème. Les manches sont légèrement ballonnées. La fête va pouvoir commencer. Entre-temps, le cinématographe a été réparé. L'heure de la projection est donc arrivée. Le technicien responsable de l'éclairage de la salle invite le public à rentrer. Dans le bazar, il y a déjà plus de 1000 visiteurs répartis entre les différents comptoirs. L'ambiance est festive, détendue, insouciante. La projection démarre. Les cloisons de la salle sont très minces et on entend le brouhaha venu du bazar, mais enfin, peu importe, tout est réuni pour le plaisir des yeux. Soudain, le film s'arrête. La lumière s'éteint. Le projectionniste s'excuse.
« Mesdames et messieurs, une petite minute, s'il vous plaît, le temps de remplir ma lampe. »
Il faut remettre de l'éther dans le réservoir. L'assemblée est plongée dans le noir. Le projectionniste demande de l'aide à son assistant. Il s'avance à tâtons au fond de l'habitacle, écarte les rideaux. Ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de bougie, donc l'assistant craque une allumette. Et en une fraction de seconde, l'éther échappé du bocal que le projectionniste vient d'ouvrir s'enflamme. La pellicule de celluloïde qui pend du projecteur prend feu.
Du goulot du récipient, je vis sortir une seconde, comme une coulée de lave, une fusée de feu, une gerbe de flammes, puis une explosion. L'incendie était déjà partout, partout.
Il est alors 16h20. En quelques minutes, les flammes gagnent les décors installés de part et d'autre de l'allée centrale.
Ce fut une panique inimaginable. En proie à un affolement subi, les 1200 personnes qui se trouvaient là se ruèrent vers la sortie, se bousculant, s'écrasant, tombant en tas les unes sur les autres, formant ainsi d'infranchissables barricades de corps amoncelés. La terreur était sur tous les visages.
Des femmes transformées en torches humaines sortent en poussant des hurlements. Certaines dont les robes brûlent se roulent sur le pavé. La seule porte d'entrée a été conçue de telle sorte que ses vantaux ne s'ouvrent que vers l'intérieur. Les autres issues sont rapidement bloquées par l'amoncellement des corps. Un cuisinier a repéré une fenêtre grillagée. À coups de marteau, il tente de desceller les barreaux. À l'intérieur, des femmes s'agrippent désormais aux treillis. Aux alentours du bazar de la Charité, les fenêtres des maisons de la rue Jean Goujon éclatent sous la chaleur. Le bâtiment est en train de s'effondrer. Les échelles disposées sur les rares ouvertures ont pris feu elles aussi.
La chaleur était intolérable. Les malheureuses qui parvenaient à sortir étaient léchées par les flammes, écrasées, affolées. La poussée était telle que les gens tombaient là, les uns sur les autres, et formaient sur le trottoir une masse enchevêtrée et grouillante. Celles qui sortaient vivantes étaient frappées de stupeur de folie. Il y avait des dames immobilisées, clouées par terre, comme hypnotisées.
Il est maintenant 17h. Il ne reste plus du bazar de la Charité qu'un amas calciné. Au milieu des décombres encore brûlantes, il y a près de 130 cadavres. Il faut maintenant fouiller le chaos à la recherche des victimes. Le lendemain, les corps carbonisés sont alignés sur le sol. La plupart sont dépourvus de têtes et de membres. Les personnes à la recherche de proches disparus tentent avec difficulté de les reconnaître. L'ambiance est apocalyptique. La puanteur des cadavres se mêle aux vapeurs de camphre et de phénol dont on a arrosé les corps pour les conserver le plus longtemps possible. Chirurgiens et dentistes accompagnent les parents des victimes pour tenter de retrouver la trace d'une opération ancienne ou la pose d'une couronne ou d'un bridge. La duchesse d'Alençon est identifiée rapidement. Son dentiste a reconnu les dents qu'il a recouvertes d'or. Et en retournant le corps, une mèche de cheveux est apparue qui avait gardé tout son éclat. C'était bien elle. Une sœur de l'église de la Charité a été identifiée avec les restes de sa cornette. Sous les plis calcinés de son habit, on retrouve une feuille blanche, intacte, sur laquelle elle a écrit « Mon Dieu, sauvez-nous ». Cette tragédie du bazar de la Charité aura ses martyrs et ses héros. On décora les uns et les autres. On va reprocher au baron de Mako, ancien de l'école navale, d'avoir échappé un peu vite à la catastrophe. On lui fera passer un billet, lui faisant observer qu'en cas de naufrage, le capitaine se doit d'être le dernier à quitter le navire. La catastrophe a frappé de stupeur le monde civil et religieux de Paris. À l'archevêché, on s'interroge. Comment Dieu a-t-il pu frapper un lieu dédié à la seule charité? Un lieu que le nonce apostolique lui-même était venu bénir depuis Rome la veille de l'incendie. Le journaliste Léon Blois publie un texte d'une violence inouïe.
L'agitation au sujet de l'incendie continue. Songez donc, des personnes si riches en toilettes de gala et qui avaient leur voiture à la porte. Leur voiture éternellement inutile. Tout ça pour l'amour des pauvres, oui, tout ça. Quand on est riche, c'est qu'on aime les pauvres. Les belles toilettes sont la récompense de l'amour qu'on a pour la pauvreté. Et voilà qui condamne l'Évangile. Le nonce du pape était venu bénir la truie qui file un instant avant le feu. Il était à peine sorti que cela commençait.
Dans certains journaux, on rappelle alors la prophétie de la voyante Henriette Couédon, qui dans les salons de Madame de Maillet avait prédit la catastrophe. Et tous ceux qui avaient alors assisté à la séance organisée par Madame de Maillet sont bel et bien sortis indemnes de l'incendie. Le jour même de l'incendie, on avait amené un petit garçon nommé Alfred. Il avait été présenté aux dames patronesses comme un modèle de sagesse malgré la misère dans laquelle il vivait. Sa mère, lingère de son métier, était tombée dans la plus grande pauvreté après la mort de son mari. Quelque temps auparavant, elle avait perdu son premier fils. Il ne lui restait plus que ce petit Alfred en qui elle avait mis tout son espoir. Alfred fut présenté à ces dames du bazar de la Charité. Il périt dans les flammes. Le jour de l'enterrement, les voisins se rassemblèrent autour de la mère demeurée seule. Pour toute consolation, elle eut droit à une couronne mortuaire, cadeau du conseil municipal. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook « Au cœur de l'histoire ». Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation a été coordonnée par Xavier Joly. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.